de gros dégâts. Voilà pour l'actualité. Excellente matinée.
Bonjour à tous, vous êtes à l'écoute de Radio Plus sur 104.3 et l'émission L'heure flamande préparée par Michel et Marie-Jo.
Et aujourd'hui, nous avons invité donc Marc et Alésia. Bonjour à tous les deux.
Bonjour. Bonjour Michel.
Et nous allons parler d'un cheval emblématique de notre région, le Trait du Nord. Alors tout d'abord, on va essayer de décrire pour nos auditrices et auditeurs à quoi ressemble le fameux Trait du Nord.
Alors, il est le successeur du Brabançon, qui vient toujours de la Belgique et des pays du Hainaut. Et notre papa était agriculteur de père en fils dès l'âge de 10 ans avec les chevaux de Trait du Nord dans les champs. Il a cotisé à l'association pendant environ 65 ans. À l'âge de 63 ans, il a arrêté, cotisé sa vie avec des poulinages, des chevaux, du débourrage. Et moi, le fils aîné, j'ai quitté la ferme à l'âge de 15 ans pour aller faire mes études à l'Institut de Genève. Et de là, il y avait des professeurs belges qui demandaient des élèves pour travailler le week-end. Et puis je suis parti pendant 3 jours et je suis revenu avec 1200 francs dans les mains au bout de 3 jours. Et le papa, il a dit, t'as gagné en 3 jours plus que moi sur 1 mois. Et à la suite de ça, j'ai jamais pu mettre les pieds dans la ferme.
Ouais, donc, en fait, c'était pas d'office que tu as pris le relais de ton père, Émile, pour...
Non, pas du tout.
Pas du tout.
C'est après, quand papa était en fin de vie, qu'il a fallu l'accompagner pendant 3 ans. Avec son fauteuil sur les foires, les concours et autres, qu'on a repris goût et que les enfants aussi ont peut-être été incités par le papa et le grand-père à vouloir faire ça. Mmh. Mais je ne sais pas, on ne sait pas pourquoi les enfants ils continuent.
Voilà, alors Alésia, justement, comment ça t'est venu t'es tombé dedans quand tu étais petite, toi?
Bah, moi, quand j'avais 9 ans, la passion des Traits du Nord, ça a toujours été un de nos gènes dans notre famille. Et le fait que papa, à l'âge de 11 ans, a acheté une jument, Castille du Prieuré, ça a fait un déclic et tout a commencé dans ce domaine-là. Et puis, petit à petit, on a commencé à faire des concours, à avancer dans le domaine, à en apprendre plus. Et puis, on continue toujours à faire des concours tous les ans.
Et alors, quand on a préparé cette émission, tu disais qu'à l'âge de 9 ans, déjà, tu t'es occupé déjà d'une jeune pouliche.
Oui, donc on a récupéré une jument, donc Castille du Prieuré, et on a commencé à faire des concours avec elle. Et pendant un an, ça a été magique pour nous, avec mes frères et sœurs, parce que elle avait fait première au concours à Cambrai en national, et puis on avait été sélectionnés pour aller au centre d'agriculture. Donc c'est en agriculture, tout le monde connaît ça. C'est, enfin, pour des éleveurs et des enfants, c'est magique, quoi. C'est un moment qui est festif. Et puis petit à petit, on a commencé à y prendre vraiment goût du cheval. Et on a mis la jument à la saillie pour donner naissance à Hélène Desbarres, qui a maintenant 5 ans et qui va bientôt pouliner.
Alors justement, pour nos auditeurs et auditrices, parce qu'on n'est pas à la télévision... Tu peux décrire brièvement à quoi ressemble un Trait du Nord? par rapport à, on va dire, parce que les sortes de chevaux, il y en a de multiples, hein, entre le cheval qu'on voit au tiercé et puis celui, le trait du Nord. À quoi ressemble un trait du Nord ?
Eh ben, un trait du Nord, pour ceux qui ont connu, c'est les chevaux que nos anciens travaillaient dans les champs avec. C'est un cheval qui a une grosse musculature, qui est puissant, qui est assez grand, court. Il peut être baie, donc marron, alezan un peu marron crème, on va dire, ou encore noir. Et il peut mesurer plus d'un mètre 65. Et donc, comme le disait mon papa, c'est un croisement de plusieurs races, donc le trait belge, le trait néerlandais depuis 200 ans, avec le trait flamand.
D'accord. Et alors, c'est un cheval qui pèse combien, à peu près ?
Ça peut aller de 800 à 1000, à une tonne, à peu près, à l'âge adulte.
D'accord. Le mâle étant plus lourd que la femelle.
Oui, c'est ça.
D'accord. Alors, le cycle de vie du cheval, bon, c'est-à-dire, tu parlais de poulinage, la gestation d'une jument, c'est, ça dure combien de temps ?
Donc, pour la gestation, ça dure 11 mois. Et souvent, on met ces chevaux-là en prairie parce que c'est un cheval qui est rustique, qui n'a pas peur du froid. Et l'hiver, il a un poil très épais, donc il résiste au froid et il adore être dehors, quoi.
Alors, Marc, justement, tu faisais la remarque en disant, bah, il y a des fois des personnes qui sont choquées de voir...
Oui, tout à fait. Tout à fait. On a déjà eu des représailles par des habitants du village, mais bien sûr par l'intermédiaire de la mairie. Mm-hmm. Pas de nom, et on n'est pas obligé de rentrer les chevaux. Donc, moi, qu'ils ont déjà un abri ou des arbres pour aller se loger. S'il pleut, ils vont se mettre à l'abri, et s'il y a de la neige, ils vont aller se rouler dedans. Et même manger un peu de neige.
C'est un cheval qui est rustique, qui a l'habitude.
Ben oui, tu vois sa rusticité, il peut rester dehors.
Il est même peut-être mieux dehors.
Il est certainement mieux dehors. Il est certainement mieux dehors. Oui.
D'accord.
venez d'entendre le branle des chevaux, interprété par le groupe Hopland, musique traditionnelle flamande. Vous êtes à l'écoute de Radio Plus.
Et aujourd'hui, nous consacrons ce numéro au cheval emblématique de notre région, le Trait du Nord, et nous recevons pour l'occasion Marc et Alésia. Alors Marc, en début d'émission, tu parlais que toi, eh bien, fils d'agriculteur, tu avais trouvé un job plus sympa, ça devait être à l'extérieur de la ferme. Alors ça devait être un petit peu le chagrin de ton papa, j'imagine.
Peut-être, peut-être.
Mais alors, qui est Émile, ton père?
Émile, notre papa, c'était un personnage du village, un emblématique, et qui reculait devant rien. Il partait parfois deux ou trois jours avec sa mobilette, en short, dans la Vénois pour lui acheter des poulains, pour les débourrer. Ou à ce temps-là, c'était pour la boucherie, pour déboucher chevalin à droite et à gauche. Et quand il était parti, ben c'était moi qui faisais la traite avec maman pendant un jour, deux jours. Et des fois, c'était trois jours qu'il était parti. Et il trouvait toujours à manger et dormir dans une ferme, chez une personne, chez l'une, chez l'autre. Et il partait des fois dans la Vénois jusqu'à Hirson, Saint-Quentin, La Capelle. Et il faisait quelques kilomètres d'un côté, quelques kilomètres de l'autre. Et puis, et il trouvait toujours quelque chose.
T'es un amoureux déjà des chevaux?
Ben oui, peut-être. À ce temps-là, on appelait ça un maquignon.
Mmh. Alors un maquignon, justement, pour les personnes qui connaissent pas trop...
Ben, c'était une personne qui cherchait des bêtes pour l'un, pour l'autre, pour des marchands, pour déboucher chevalin, pour débourrer lui-même en hiver quand il y avait le temps entre ses bêtes.
D'accord. Alors il y avait une particularité, parce qu'il était réputé dans le village, ton père. Est-ce qu'il... Entre le cheval et le tracteur, qu'il avait choisi quoi?
Ah ben, il avait choisi le cheval parce qu'il voulait jamais s'asseoir. Il était toujours bien avec ses chevaux, avec ses bêtes.
Donc, disons, il était fidèle au Trait du Nord.
Au Trait du Nord, ah oui.
Voilà. Le tracteur, il voulait pas en
entendre parler. Il en voulait pas. Il disait toujours que s'il était assis sur un tracteur, il allait mourir.
Ah oui, donc c'était très très fort.
Ah oui.
Donc ce besoin de valoriser le
peut-être
cheval.
Peut-être valoriser le cheval, ou c'était sa passion.
Une vraie passion. Ah, et oui. Une passion qu'il a transmise.
En premier à son petit-fils, à oui. Mon fils Ludovic,
oui.
Qui a démarré, je ne sais plus en quelle année, quelques années avant que papa y décède, je crois que c'est 3-4 ans. Et il a toujours suivi, et puis après il y a eu besoin d'un coup de main pour faire le premier concours à Alain en 2009. À la suite du décès de papa de janvier. Mmh. Et puis après, tout s'est enchaîné.
Donc il a été mordu aussi, Ludovic?
Ben oui, en étant jeune, il disait toujours qu'il voulait faire pareil que son grand-père.
C'était un peu son modèle de vie.
Ben peut-être. Et aujourd'hui, peut-être que papa y est représenté par Ludovic.
D'accord. Ouais. Donc la pérennité de...
Ben, on ne sait pas comment c'est venu. On ne sait pas. Mmh.
Ah, c'est un peu comme disait Alésia, c'est les gènes qu'ils ont parlé.
Bah peut-être, on ne sait pas.
Parce qu'aujourd'hui, bah, c'est ta fille Alésia là, qui a l'air
d'être mordue dedans, oui. Voilà. Bon, y en a d'autres dans la famille, hein. Mais...
Oui, c'est une affaire familiale.
Oui, tout à fait.
Alors Alésia, toi, pourquoi tu disais tout à l'heure, mon poulinage, ta passion pour le cheval, c'est venu comment un petit peu?
Bah, avec l'achat de la jument... Bah, elle avait eu un poulain, et surtout que la pouliche, donc Elan, elle a été orpheline au bout de 3 jours. Et donc on a dû se lever la nuit, tous les 2 heures, 3 heures, petit à petit. Et le lien est venu comme ça avec elle. Et il y a encore des éleveurs qui me disent, cette jument-là, tu as eu un lien avec elle en étant jeune, et ça le restera toujours.
Ah oui. Donc le fait que justement tu as... materné en fait, donc là tu
voilà.
C'était pas que de la poésie, hein, parce que des fois on peut dire j'aime le cheval parce que c'est un animal qui est beau, qui est
une image,
une belle image. Voilà, une belle image, mais toi tu étais au contact direct avec l'animal, avec sa chaleur, avec
voilà,
c'était un contact
physique et mental,
et puis avec la contrainte toutes les 2 heures.
Voilà.
Quand on est une enfant, ouais. Bah, on préfère être dans son lit.
Pendant 3 mois, il a fallu se lever pour nourrir la pouliche. Quand on a des enfants, on les laisse pas seuls.
Bien sûr.
Et des animaux, c'est le même.
Voilà. Donc c'est une grosse contrainte, il faut le savoir.
Oui.
Il faut,
oui.
Parce que des fois, on dit, oh, ben, c'est un petit peu comme à Noël, on s'achète un petit chien et puis on a oublié les contraintes. Le cheval, c'est encore bien plus fort en entretien.
Bien plus fort et puis bien plus cher aussi.
Oui.
Parce que c'est coûteux quand même.
Alors justement, à propos de coûts, combien, alors maintenant, bon, tu m'as presque séduit d'avoir un cheval de trait du Nord. Alors comment ça se passe? J'ai envie d'en avoir un. Quelles sont mes contraintes?
Bah, faut d'abord savoir où on va mettre le cheval. Si on va le mettre en boxe, en pâture, s'il va être chez nous, s'il va être en pension. Parce que c'est mieux de le mettre en pâture car il va être libre de bouger. Et on pense surtout au bien-être animal en premier, qui est important, surtout en ce moment, sur les animaux. Et si on le met en pâture, il faut qu'il y ait environ 1,2 hectare toute l'année en prairie. Avec une prairie qui est bien entretenue. Donc on peut dire que si on fait un pâturage tournant, donc on divise la prairie en plusieurs parcelles pour favoriser la repousse du fourrage, donc de l'herbe. Et après, bah, faut nourrir le cheval. S'il y a en box, faut mettre de la paille, du foin, les granulés, de l'orge. Ça dépend du propriétaire. Et après, il y a les soins vétérinaires, il y a le vermifuge, le vaccin. Et après, bah, savoir dans l'année s'il va pas avoir des complications ou autre chose.
Donc le surveiller constamment.
Voilà. Faut toujours surveiller le cheval. Même si on part en vacances, faut toujours qu'il y a quelqu'un qui vient voir le cheval, surveiller si tout va bien.
Et j'en achète un cheval. Est-ce que un cheval, il va pas s'ennuyer? Est-ce qu'il faut pas...
Faut, voilà, il y a ça aussi.
Ça dépend des chevaux.
Oui.
Tout dépend des animaux. Il y a des animaux, ils sont bien seuls. Il y en a d'autres, il faut qu'ils soient accompagnés en compagnie. Ça se prévoit pas.
En fait, chaque cheval a son caractère.
Comment?
Chaque cheval a son caractère.
Ah ben oui, c'est comme un être humain. Hein. C'est comme un être humain. C'est pareil. Il y a des chevaux, ils vont être plus dociles que d'autres. Et puis, un cheval, ils vont mettre une semaine ou deux pour le dresser, pour travailler. Et puis, il y en a d'autres, il faut des mois. Il y en a qu'on n'y arrive jamais.
Alors justement, on parlait de débourrage. Ça consiste en quoi, le débourrage d'un cheval?
Vas-y.
Bah, le débourrage, c'est on apprend au cheval certaines choses. Comme bah, pour moi, ma jument, on avait commencé en main. Donc on lui fait passer sur différents objets. On avait eu des idées un petit peu folles en étant jeune. C'était d'écraser des bouteilles d'eau et la faire passer dedans pour l'habituer. Après, il y avait le parapluie aussi ou... des bidons d'eau qu'on peut trouver dans les différents jardins, une bâche de différentes couleurs, des confettis, ça peut être tout et n'importe quoi. Alors, et après,
ça consiste en quoi, par exemple, parce que j'imagine si le cheval il marche sur une bouteille d'eau, rien que le bruit, ça doit l'effrayer quand même.
Oui, oui, bah surtout quand il est jeune, et après s'il est bien habitué, on voit qu'il y a plus peur de quelque chose d'autre, alors... on essaye de le désensibiliser, on va dire, à cet objet.
Donc, vous le rassurez et le ramener au calme ou...
Voilà. C'est surtout ça, ramener au calme et essayer de lui faire comprendre qu'il doit y aller et pas confronter à sa peur.
En fait, c'est le rassurer essentiellement.
Voilà, surtout ça.
Parce qu'un cheval est réputé d'être plutôt craintif.
Oui, mais ça, c'est l'être humain qui le rend autrement. C'est le contact, le feeling qui passe entre l'animal et l'être humain. Et ça passe pas, ben c'est tout. Le cheval, on peut pas le travailler.
D'accord, donc la première qualité, c'est surtout chez le maître qu'il faut...
Ben voilà, tout à fait, tout à fait. C'est le meneur du cheval, de l'animal qui doit faire comprendre à la bête que c'est comme ça et c'est pas autrement.
Donc il vaut mieux déjà faire une propre étude sur soi pour dire est-ce que je suis capable d'être meneur de chevaux.
Voilà, en fait. C'est ça, oui, tout à fait, tout à fait.
Donc il y a un gros travail de connaissance de soi avant de pouvoir diriger un cheval, parce que c'est quand même puissant. On parlait tout à l'heure de 900 kilos. J'imagine, bon, une jeune fille comme Alésia qui mène un animal de 900 kilos, c'est pas évident. Et donc, bah, comment tu y arrives, toi?
Bah, d'abord, il faut y avoir du caractère. Faut pas se laisser faire. C'est comme un jeune chien que vous prenez chez vous et que bah, il fait ses besoins dans la maison. Bah, il faut l'éduquer. C'est pareil pour le cheval. Bon, il y a des fois, on peut être un petit peu dur avec les chevaux. Il y en a certains qui nous le disent, mais c'est comme ça qu'il va apprendre. Parce que s'il apprend pas, on se fait marcher sur les pieds et puis ça va jamais aller, quoi.
En fait, ça sera lui le maître.
Voilà. Il faut que ce soit nous le maître. Si c'est pas nous le maître, ça va jamais aller.
Bien sûr.
J'habite dans un trou perdu, près des nuages. J'y ai déposé mes bagages et j'ai du plaisir à y vivre, car j'y respire un air parfumé de légende folle et du vent de la mer du Nord. J'aime écouter les lourds chevaux au pas tranquille me parler des labours d'antan, de cette terre calme et fertile, chant des batailles, au bruit de bottes en tout genre, souillère de sang. C'est doux Sillon, oui j'habite en Flandre, je suis logé là-haut, tout près du ciel. Ja, ik woon in Vlaanderen, boven, ik heb mijn thuis dichtbij, bij de hemel. Beaucoup d'aventuriers reviennent au port d'attache pour aborder l'ultime voyage, avec autour de les images pieuses de l'enfance. Laissons du préau de l'école sonner au vent, la mer du Nord. Oui, j'habite en Flandre, je suis logé ciel. Ja, ik woon in Vlaanderen, boven, ik heb mij thuis hierbij, bij de hemel. Je suis de retour au pays, bien avant l'âge, mon aventure continue ici, il y a de l'or qui tombe en douce sur cette terre, qu'on soit d'ailleurs ou bien de souche, ce monde d'amour, c'est l'Oussillon. Oui, j'habite en Flandre, je suis logé là-haut, tout près du ciel. Ja, ik woon in Vlaanderen, boven, ik heb mijn thuis hierbij, bij de hemel. Ja, ik woon in Vlaanderen, boven, ik heb mijn thuis hierbij, bij de hemel. Ja, ik woon in Vlaanderen, boven, ik heb mijn thuis hierbij, bij de hemel.
Et d'entendre William Schott vous interpréter Trou perdu, où il vous chante son amour de la Flandre, notamment la nature, les chevaux, il parle des chevaux de labour.
En particulier, en effet. Et donc, nous consacrons ce numéro de l'heure flamande, donc sur Radio Plus 104.3, au Trait du Nord. Et nous avons donc invité Marc et Alésia. Alors, Alésia, justement, donc tu nous disais. Une tombée dedans, donc à 9 ans tu avais déjà sauvé une pouliche, et tu te destines à quel métier parce que ça a l'air d'être une passion. Tu suis quelles études? Comment tu t'y prends pour assouvir cette passion?
Eh bien, je suis rentrée en seconde à l'Institut de Genève pour faire mon bac pro. Maintenant, je suis en terminale, donc je passe mon bac cette année. Le bac consiste dans l'élevage du cheval, donc on apprend tout ce qui est l'élevage, la santé, l'alimentation, la reproduction, la génétique aussi. Et donc l'année prochaine, je veux poursuivre mes études dans un BTS production animale à l'Institut de Genève aussi, pour en apprendre davantage sur le cheval et ensuite travailler avec les chevaux de trait, donc être prestataire de service avec les chevaux de trait en ville.
D'accord. Alors, quels sont, disons, parce que n'importe qui peut pas faire ce type d'études, quelles sont les qualités qu'on exige pour s'inscrire à ce type de formation?
Bien, l'Institut de Genève regarde surtout la motivation de l'élève. Par exemple, si ça fait longtemps qu'il est dévoué à faire cette école-là, ses études, ça va être plus facile pour les professeurs de choisir les élèves, on va dire. Bon, on va dire que c'est quand même un BTS, une école qui est beaucoup demandée, qui a beaucoup d'élèves qui sont dans les classes. Moi, je le vois cette année, on est 36 dans ma classe. Bon, c'est pas toujours facile, mais on se dit que s'ils font pas ça, bah, ils repoussent beaucoup d'élèves qui ne peuvent pas garder.
Et donc, en fait, ce sont beaucoup des élèves passionnés par veulent faire. Donc, on n'est pas obligé d'être fils d'agriculteur pour être...
Ah non, pas du tout, non.
La première qualité, c'est...
Être motivé et savoir ce qu'on veut faire.
D'accord. Alors, justement, pour les chevaux, tu te destines donc pour la passion, les traits du Nord. Sauver cette race, parce qu'on parle aussi que, eh bien, malheureusement, elle est assez menacée. Comment peut-on faire pour préserver cette race?
Eh bien, on peut faire différentes activités, comme le transport de personnes, par exemple avec les mariages, les marchés de Noël et les fêtes de Saint-Nicolas en mois de décembre. Après, on peut faire le ramassage de déchets, qui consiste à ramasser donc le plastique, le carton, le verre, etc. Après, il y a le débardage en forêt sur des parcelles qui sont très humides où les tracteurs ne peuvent pas y aller. Mon grand frère fait un petit peu ça parfois.
Alors, le débardage, ça consiste en quoi exactement?
Ça consiste à enlever les troncs d'arbres qui sont dans la forêt, donc sur des parcelles humides. Vu que le tracteur ne peut pas y aller, le cheval va tirer les rondins de bois et va les déplacer sur un autre endroit pour que le tracteur puisse les récupérer.
C'est une façon, oui, pour préserver aussi le chemin des forêts.
Aussi, oui.
D'accord. Sinon, d'autres activités qu'on peut destiner à ce...
Les arrosages en ville, les entretiens.
Après, il y a le travail des sols aussi, donc dans les vignes ou dans le maraîchage. Je me souviens qu'il y a une année où mon papa il me disait il y avait des messieurs qui étaient là pour... avoir 4 juments B, ils voulaient que des juments B, donc marron clair ou foncé, pour travailler dans les vignes. Et pour nous, c'était bien parce que les juments, c'était que les 4 juments qui sont partis, c'est 4 juments de la famille Mortelec. Et ces personnes-là, ils ont voulu que des traits du Nord pour son calme et parce que c'est des chevaux doux.
Et pourquoi B? Ils avaient un choix de couleur précise?
C'était leur choix.
Oui. Il avait acheté 4 pouliches pour lui les débourrer et les revendre après pour la vigne. D'accord. Pour la vigne ou autre, on ne sait pas. D'accord. Ou aller en montagne, on ne sait pas.
D'accord. Ouais. Alors justement, c'est aussi une perspective intéressante vers les vignerons.
C'est un débourrage.
Et donc une perspective intéressante de travail aussi.
Oui. C'est ouvert vers cette profession-là. Et aujourd'hui, il y en a qui sont prestataires de services en culture maraîchère ou même dans les vignes. Et ici, comme la Melle, elle a ouvert à Wavrin la ferme bio. Il y a une dizaine de petits exploitants. Ils veulent faire du travail avec des chevaux dans les champs.
D'accord.
Ouais.
Alors l'intérêt, c'est de préserver les sols, justement?
Certainement. Mais on peut pas tout faire avec les chevaux. Le cheval, il va pas aller enlever les mauvaises herbes dans les lignes.
Non, c'est... Mais un tracteur non plus.
Un tracteur non plus.
Non. Mais la différence, justement, parce que Ludovic, ton grand-frère, disait justement, un cheval, c'est pas un tracteur.
Ah oui. Il faut s'arrêter de temps en temps, parce qu'il faut bien que le cheval, il souffle aussi. L'être humain qui est derrière, qui marche, et il va pas marcher pendant 50 kilomètres. Mmh. Il va s'arrêter un peu entre deux. Le cheval, s'il a labouré 150 mètres de long, bah, arrivé au bout, il faut s'arrêter 2-3 minutes.
Oui, et puis une fois qu'il a fini son travail, on ne le met pas dans un garage.
Eh ben voilà, il faut encore le nettoyer, et ceci, cela. Et s'il est trempé, bah, vous ne pouvez pas le mettre dehors. Et il faut le laisser au box et qu'il se roule un peu dans la paille et qu'il se sèche lui-même.
Donc une fois que la journée de travail est terminée, ce n'est pas encore fini
pour... Ah non, ce n'est pas terminé. Hein. Ah oui. Il y a encore les soins du cheval à donner à manger.
Ça ne doit pas être facile.
Ah non, c'est quand vous avez fait 6 heures ou 7 heures de prestation, vous avez 2 heures avant et 2 heures après. Donc, quand vous avez fini votre journée, vous êtes tout près des 10 et 12 heures sur la journée.
Donc c'est un métier de passionné, ça. Il faut être passionné.
Oui, c'est un peu un métier d'esclave. On est esclave de ces animaux.
Oui, bon, on ne va peut-être pas aller jusque-là, sinon elle sera découragée.
Bon, c'est le métier de la passion, et elle le veut comme ça, et c'est tout.
C'est un métier de passionné.
Il y en a d'autres, leur passion, c'est de partir en vacances.
Ouais.
Et nous, la passion, bah, c'est les animaux.
Alors justement, pour les valoriser, vous s'organisez à l'Ennemarée en particulier.
Oui, une manifestation qu'on fait tous les ans à la mi-septembre. Et la première année, on avait 20-25 chevaux, on était contents. Et maintenant, on voisine les 40, et voire 50.
À l'organisation d'une telle fête, comment ça se passe ?
Ben, heureusement qu'on a la municipalité avec nous, parce que seul on pourrait pas. Aujourd'hui on va peut-être avoir la mêle avec nous dans quelques jours, quelques mois. Peut-être que ça va nous apporter quelque chose, on verra, l'avenir nous le dira plus tard.
Bien sûr. Alors ça se passe donc au mois de septembre pour alors le but de ces rencontres, quel est le but
Le but, ben, c'est déjà penser à notre papa qui était derrière et qu'il se déplaçait un peu partout sur le département, même voire un peu plus loin, sur des départements limitrophes, même la Belgique, la Hollande et peut-être pas l'Allemagne, je ne sais plus, mais certains la Hollande et la Belgique. Et il y a des moments, il partait seul avec sa mobylette et on ne savait jamais où il était.
Ouais. Ouais, il n'y avait pas de portable à l'époque.
Ah non, ben, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Ouais.
Et donc, ces manifestations, ces concours, eh bien, c'est bien sûr pour essayer de
Pour valoriser le cheval de trait et le faire connaître. Et le faire connaître.
D'accord, parce que, d'après ce que je peux savoir, il y a un gros problème de pérennité de l'animal. Il est en danger.
Il est pratiquement perdu, puisqu'on était à 50 naissances l'année dernière. Et cette année, on va être un peu plus, on va peut-être voisiner les 80, mais ça va être très dur, parce qu'il y a le taux de mortalité qui est là aussi.
Combien il faudrait de naissances pour pérenniser
Je ne sais plus, quand il y avait les concours de Cambrai, notre papa il disait qu'il y avait 200-300 juments, à l'heure actuelle, que s'il y en a 80, c'est beaucoup, mais ça coûte très cher, parce que les frais de déplacement, ils sont là aussi. Les entretiens, l'entretien du cheval, faut tout accumuler, mais on est vite arrivé à 700-800 euros, 1000 euros à l'année, alors qu'avant, ben, ça coûtait presque rien. Il y avait une personne qui transportait avec son camion 15-20 chevaux. À l'heure actuelle, ben, nous, on s'en va avec deux ou trois, on est content, dans un van. À l'heure actuelle, ben, mon fils et mon neveu, ils ont acheté chacun une bétaillère. On s'en va avec les tracteurs à Cambrai et on met une heure et demie, deux heures de route et on s'en va avec une quinzaine, 20. C'est comme ça aujourd'hui. C'est toujours les frais de déplacement qui sont là.
Ouais, c'est ce qui freine. Alors
on espère peut-être avec l'AMEL pour le concours à l'Ennemarée qu'ils pourront peut-être nous offrir une petite prime à chaque éleveur.
Ouais, que les pouvoirs publics vous donnent un coup de pouce.
Ben, il faudrait que les pouvoirs publics, mais... Arriver à convaincre tous ces pouvoirs, nous on n'est pas assez fort. Peut-être que la municipalité l'année prochaine nous le rendra. On verra.
D'accord.
Une journée à la fois et un mois à la fois.
Voilà, donc c'est un combat de chaque jour.
Bah, de chaque jour, bah oui, tout à fait.
D'accord.
Parce que la communication, elle passe pas toujours bien.
Oui, et puis c'est vrai que bon, le cheval, ça peut faire une image rétro, peut-être.
Oui. Passée, comme le maire actuel, Alain Emery, qui nous a dit l'année dernière, on pouvait pas obtenir de place pour les Ducasses. Il y en a une dans chaque commune, mais des concours de chevaux de trait, il y en a pas.
Donc, un gros travail pour convaincre les autorités.
Les autorités publiques.
Voilà, pour qu'ils puissent vous faciliter un peu les choses, parce que votre travail est déjà compliqué et difficile.
Oui, plus que compliqué.
D'accord.
Plus que compliqué. Heureusement que toute la famille s'y met.
Voilà, donc le clan Mortelec est tous derrière, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi que vous soyez aidé par.
Par les pouvoirs publics.
Voilà.
Kunnen jij en ik vandaag misschien een beetje traag? Is een roeibootje niet snel, romantisch dan wel? Ik wil langzaam met mijn vlam op een oude rammeltram, waar we iedereen vertellen hoe jij in mijn leven kwam. Met z'n tweetjes op de fiets, dat lijkt me ook wel iets. En we zwaaien naar de trein, oh wat is dat fijn. Mijn horloge is gestopt, net toen jij mijn handen nam. En toch slaat er één in sneller sinds jij in mijn leven kwam. Op en neer, heen en weer.
Vous interprétez Open Air de long en large. Vous êtes à l'écoute de l'heure flamande sur Radio Plus 104.3.
Et nous consacrons ce numéro au Trait du Nord avec nos invités, donc Marc et Alésia. Alors Alésia, bien sûr, on a parlé des difficultés, tout ça, mais il y a des fois des périodes assez, aujourd'hui avec le recul, cocasse, mais qu'il n'était peut-être pas forcément au moment où ça s'est passé.
Oui, comme avec notre première jument, donc Castille. La première fois qu'on l'a mis en calèche, papa était sur la calèche et il nous a dit non, vous montez pas, ça va être dangereux. Ah, nous on se dit non, ça va pas être dangereux. Hein. Enfin, pour nous on était encore jeunes, on avait même pas 10 ans. Pour nous ça allait bien se passer quoi. La jument était calme, ça allait. On la met à la calèche et puis là on voit quoi? La calèche qui se retourne. Et papa il a volé comme je sais pas quoi. Nous on rigolait mais. Maintenant, on se rend compte que c'est quand même dangereux, quoi.
Ouais, il faut pas faire n'importe quoi. Alors, bien sûr, aujourd'hui, en l'expliquant, Marc, tu t'en souviens encore, j'imagine.
Bah, bien sûr. On n'oublie pas.
Donc, la preuve, c'est que lors de ces manifestations, quand on dit attention, parce que le public, parfois, n'est pas toujours.
C'est déjà arrivé que les parents et. Qu'on a déjà dû retirer les enfants qui étaient dans les pattes des chevaux.
Ouais, donc il faut quand même faire.
Et même en faisant attention, on arrive encore à des petits accrochages, des petits accidents, des petites bricoles, comme on dit. Mais il faut toujours avoir l'œil partout, partout, partout.
Il faut être prudent. Et justement, à travers ces manifestations, alors, les auditeurs et les auditrices pourront, disons, approcher ce cheval qui mérite toute notre attention à travers de plusieurs manifestations. Alors, Alésia, tu en as peut-être quelques-unes à conseiller à nos auditeurs.
Il y a surtout le concours à Cambrai, qui est le 18 et 19 juillet, donc ça dure un week-end. Le samedi, il y a le concours modèle et allure, donc on passe le cheval devant le jury. Ce sera surtout pour les juments non suitées, donc on dit qu'elle n'a pas de poulain à côté. Elle peut être enceinte, pleine, on dit dans le monde du cheval. Et le 19 juillet, donc le dimanche au matin, il y a le concours avec les juments suitées, donc avec leur poulain, et le championnat. Et c'est là qu'on va dire qu'un petit peu, les chevaux qui finissent premiers à ce concours-là, souvent, ils vont au salon d'agriculture. Et donc, de l'après-midi du dimanche, il y a le défilé autour de la grande place de Cambrai. Après, on peut voir aussi la foire de Libramont, qui est en Belgique. C'est du 24 au 27 juillet. Donc, il y a différentes races de traits. Comme ça, vous pourrez voir plusieurs types et voir leurs différences. Après, il y a le 9 août à Boskep, dans les Flandres. C'est une journée qui est dédiée au cheval au cordeau. Donc, on mène le cheval à l'ancienne avec une seule corde, avec du travail du sol, sans tracteur. C'est une journée festive qui est chaleureuse. On a toujours du monde et on a la chance que c'est en août car il fait beau. Et donc, après, il y a le concours d'Alain Les Marais qui est le 20 septembre qu'on organise avec ma famille.
Alors là aussi, il y a une chose qui est assez impressionnante, c'est la parade l'après-midi.
Oui, car il y a beaucoup d'éleveurs qui viennent juste pour la parade parce que on explique bien la vie des chevaux. On dit pour chaque chevaux qui passe devant le micro, on explique la vie du meneur, on explique la vie du cheval. Il y a tout le public qui est là, qui nous applaudit, et nous, ça nous fait, ça fait chaud au cœur.
Il y a aussi une autre fête qui est aussi impressionnante, c'est à Ronceret, la fameuse
carriole. À Ronceret, oui, c'est ça.
Où on présente aussi des chevaux qu'on fait traverser la place pavée, et donc on a l'occasion de sentir la puissance de ces chevaux.
Oui, parce que souvent donc on a deux races qui vont là-bas à Carriole Fest à Onscott. Il y a donc les traits du Nord et les Boulonnais. Et souvent il y a certaines éleveurs qui vont atteler les chevaux en ligne. On dit qu'on les attelle en bande et c'est une grande force. Et quand on tient les chevaux, on voit qu'ils ont de la force, vraiment.
Et toi, tu as déjà fait type de manifestation?
Oui, j'en ai déjà fait plusieurs. Chaque année, souvent, on en fait 5-6 à peu près par an avec mon frère, ma cousine, mon oncle, toute la famille.
Et Marc, ça te fait jamais un petit peu peur de voir ce petit bout de femme mener ses puissants chevaux?
Qu'est-ce que vous voulez? Si la passion, elle passe avant.
Voilà. Tout est dit, Marc. Alors, justement, Alicia, tu évoques le boulonnais et le trait du Nord. Quelles sont les différences entre ces deux chevaux du Nord?
Eh bien, le boulonnais, il va avoir une couleur blanc, gris ou alezan. Donc, alezan, crème, marron, très, très clair. Il va être calme et doux. Et alors que le trait du Nord, il va avoir une couleur plus foncée, donc baie, alezan ou encore noir. Et le boulonnais, il va être plus grand et plus fin. Donc au niveau des membres, donc les pattes postérieures et antérieures, avant et derrière, il va avoir des pattes plus fines et on les distingue souvent par rapport à ça.
D'accord. Et leur usage est semblable ou ils font le même travail ou...
Le travail, il est pratiquement pareil, à part que le boulonnais, c'était pour la route du poisson, pour emmener le poisson de Boulogne à Paris, pour les Halles. Alors que le trait du Nord l'a jamais fait, si, par des petites manifestations à droite et à gauche, mais sans plus.
Ouais, la destination n'était pas tout à fait la
même. Pas du tout. Le trait du Nord, c'était pour travailler, tandis que le boulonnais est...
Faire de l'attraction. Voilà.
Et il est plus sportif, le boulonnais.
D'accord. Ouais. Okay. Alors, une recommandation, ben, l'émission touche déjà sa fin. Il y a tant de choses encore à dire sur cette race du trait du Nord. Alors, un mot d'espoir, un message que vous aimeriez passer à nos auditeurs.
Eh bien, c'est quand même un cheval qui est rustique. Comme l'on l'a dit tout à l'heure, c'est un cheval qui peut bien rester dehors toute l'année, même s'il neige, même s'il pleut. Et on me dit souvent, au temps des anciens, les chevaux, ils travaillaient dans les champs, même sous la pluie, sous la neige, n'importe quel temps. Des fois, même la nuit, quand il y avait vraiment du travail. Et pendant les guerres, les chevaux, ils n'avaient pas le temps d'y ils n'avaient pas le choix d'y aller. Et pourtant, ils sont encore avec nous et on l'espère encore pour longtemps.
Alors, tu parlais, en dehors de la préparation, d'un film qui était impressionnant.
C'était Cheval de guerre. Donc, c'est un film que je vous recommande, auditeurs et auditrices, à regarder. C'est assez émouvant, mais on voit la vie du cheval pendant la guerre.
Oui, comme quoi, eux aussi, ils ont laissé bien des victimes sur le champ de bataille.
Aussi.
Il y a encore un film qui est plus vieux, c'est Le Cheval Ouvrier, qui est tourné dans les mines.
C'est vrai que le cheval aussi a eu un rôle très important. Et ces chevaux-là descendaient, et je crois qu'ils ne remontaient plus.
Ah non. Il partait pour l'abattoir. Il remontait et il partait à l'abattoir.
Donc là aussi, on peut rendre un hommage à ces bêtes qui ont travaillé dur aussi.
Ben, peut-être plus qu'on ne pense. Plus qu'on ne pense.
Et donc, comme tu disais tout à l'heure, Alésia, ben, les âmes sensibles, c'est pas la peine d'aller sonner à votre porte en disant le cheval est dehors sous la neige.
Parce que c'est pas la peine. Ah non.
Le cheval, au contraire, il est heureux et on le rendrait malheureux si on le mettait dans une étable.
Bah oui, tout à fait, tout à fait.
Voilà. Ben écoutez, merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis ben on peut que inviter les gens du secteur à venir à votre manifestation qui aura lieu. Tu peux nous rappeler les dates?
Le 20 septembre à Allen et Marais.
Voilà. Donc c'est l'occasion d'approcher de très près votre travail et ces fameux traits du Nord qui sont absolument magnifiques et puissants. Merci. Et puis, on souhaite une bonne semaine à l'écoute de Radio Plus, bien sûr.
Et un grand merci à vous deux, Michel et Marie-Jo.
Merci, Parc. Allez-y.
Merci. Merci.
Ze was jong en ze was Catalaanse. In de stad kwam een leger, het Spaanse.
En ze werd smoorverliefd op een luitenant. Haar Antonio stuurde haar rozen. Had haar eeuwige liefde gezworen. En de avond van het afscheid met haar gedanst.
Hij had haar in zijn armen genomen, in de verte weer klonken als schoten. Zij besefte heel goed dat hij morgen vroeg zou weg zijn.
Dans met mij de hele nacht, weet dat ik hier op je wacht.
Genomen, was Antonio nog niet gekomen.
En de brief die ze schreef, die kwam ook niet weer. Maandenlang bleef ze trouw op hem wachten. In haar droom hoorde zij alle nachten. De bolero van toen, die laatste keer.
Had haar in zijn armen genomen, in de verte weer klonken als schoten. Zij besefte heel goed.